Bonjour à tous et à toutes. Avant que je n'oublie, pour ceux qui les connaissent, parce qu'on était en Normandie cet été, vous savez, les salutations d'Étienne et Jenny Brack, qui faisaient partie de l'église il y a quelques années, ils ne changent pas trop, bien qu'ils vieillissent comme tout le monde. Vous savez peut-être que Jenny et Étienne ont eu des soucis de santé assez graves, de cancer ces dernières années. Et ça a été tout un chemin de persévérance, de douleur aussi, mais aussi de succès, puisque Étienne est déclaré guéri après 5 ans, sans plus rien. Jenny est encore en train de faire des contrôles, donc vous pouvez aussi la garder dans la prière. Quand on les a visités, elle venait de faire un contrôle et elle attendait un peu les résultats avec anxiété. Donc voilà. Autrement, voilà, ils se plaisent bien en Normandie et je pense que si des gens de Thonon veulent aller les visiter une fois ou l'autre, ils vous accueilleront avec plaisir, en tout cas pour un goûter ou un verre. On a eu du bon poiré. Comme François l'a dit, je voulais donner un peu une exhortation sur l'encouragement ce matin. Alors, j'étais pas là la semaine passée, mais j'ai pu lire le message de François et il nous a enseigné sur le fait d'être bénédiction autour de nous. J'aimerais un peu poursuivre dans ce sens en nous focalisant sur un élément en particulier qui fait pour moi partie intégrante de cette capacité à diffuser la bénédiction autour de nous, à savoir l'encouragement. Peut-être une première question pour vous, qui est-ce qui a besoin d'être encouragé ce matin ? À tous, à tout le monde, effectivement. Quel est l'effet de l'encouragement sur nous ? Ben, la parole de Dieu nous donne pas mal de versets là-dessus, puis j'en ai choisi un, c'est dans les Proverbes. Proverbes 16, verset 24. « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Qui mange régulièrement du miel ici ? Ah, les mêmes qui ont besoin d'être encouragés. Lorsque je pars en vacances, généralement je ramène trois types de souvenirs. Un magnète, un aimant pour mon frigo, qui me rappelle où je suis allé, voilà. De la bière ou du vin de la région où je suis allé. Bon, ça ma femme n'aime pas trop parce que ça pèse dans la voiture. Mais ça me rappelle les vacances dans les mois qui suivent, ou les semaines, ça dépend. Et puis, je ramène du miel. Souvent, je ramène du miel. J'aime bien goûter cette diversité du miel selon les zones où il est produit. Et puis, j'aime bien soutenir le travail des abeilles. Hein, les abeilles sont très utiles dans nos vies, ne serait-ce que pour qu'on puisse manger. Alors, par exemple, quand j'allais régulièrement au Burkina, je ramenais du miel, qui était du miel assez fort, sauvage, comme ça. Quand je suis allé au Pérou, j'ai ramené du miel de la forêt amazonienne. Et puis là, j'ai ramené un miel de Bretagne, un miel de fleurs de bruyère, et de sarrasin. J'avais jamais goûté ça auparavant. Bref, le miel a de nombreuses vertus, vous le savez peut-être. C'est très bon pour la santé, notamment avec du citron et du rhum, quand vous avez mal à la gorge. Bon, le rhum, c'est optionnel. Hein. Mais ça guérit beaucoup de choses. Et ça guérit les lésions aussi. Lésions internes, lésions externes, des brûlures. Peut-être une petite histoire personnelle. Quand j'avais 3 ans, on est parti en camping. Et puis malgré toutes les précautions de mes parents, j'ai réussi à me renverser une casserole d'eau bouillante sur le dos. Et mon père, qui avait appris ça de son père, m'a tout de suite enduit complètement de miel, m'a enroulé dans des serviettes de bain, et puis j'ai grelotté toute la nuit, et le lendemain, j'avais plus aucune trace. Voilà ce que le miel est capable de faire. Peut-être avec quelques prières en plus, je pense qu'ils ont fait. Alors la parole de Dieu dans ce verset compare les paroles agréables à du miel. Alors c'est la même origine du mot, mais il ne s'agit pas de paroles mielleuses, fausses ou hypocrites. Il s'agit au contraire de paroles qui produisent l'encouragement, qui apaisent notre âme et qui peuvent même guérir le corps. Je ne sais pas vous, mais parfois quand on m'encourage, peut-être vous allez m'encourager après ce message, ou me décourager, je ne sais pas. Mais quand on m'encourage, parfois, ça sonne un peu étrange, ça sonne un peu faux. Alors c'est peut-être moi qui ai un problème de réception de l'encouragement, peut-être je dois travailler là-dessus. Mais parfois, ça me touche positivement, en plein cœur. Et là, je sais que c'est un encouragement sincère, Je dirais que c'est la différence entre diffuser du miel et diffuser des paroles mielleuses. Et je vous donne un exemple dans le cadre de mon travail. J'étais depuis 2 ans vraiment entouré de gens encourageants, de gens reconnaissants du travail accompli, même avant qu'il soit accompli. Et ça sonnait pas creux, ça sonnait pas faux. Alors, peut-être c'est parce que je travaille dans un environnement chrétien, mais bon, c'est pas forcément une garantie. Mais en tout cas, ce que ça produit sur nous et ce que ça produisait dans l'équipe, c'est vraiment une dynamique positive, une dynamique réciproque d'encouragement. Parce qu'évidemment, quand on vous encourage, vous vous sentez obligé d'encourager. Non. En tout cas, ça aide à trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Je ne sais pas dans votre travail si vous avez des supérieurs hiérarchiques qui vous encouragent, ou si vous êtes supérieur hiérarchique, si vous avez cette habitude d'encourager autour de vous, mais ça change vraiment radicalement l'ambiance d'une équipe. Et je pense que c'est pareil dans une église. Alors l'encouragement, ça a un grand pouvoir sur nous. Ça nous permet d'être capable de nous surpasser dans pas mal de domaines. Alors, on sait par exemple la différence que ça fait à l'école d'avoir un professeur encourageant ou un professeur qui nous décourage. J'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré par rapport à l'époque où j'étais à l'école. Vous me confirmerez, les professeurs. Mais c'est vrai que la pédagogie à la française, on est assez réputé pour notre pédagogie en France. Mais ça a été longtemps marqué par le découragement des élèves. Et on sait très bien que ça peut avoir des effets à long terme sur les enfants. Moi, je me souviens de phrases du type « tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es bon qu'à ramasser les poubelles ». Alors, c'était pas quelque chose qui était adressé à moi, mais à un camarade de classe qui est devenu ingénieur, je crois. Mais, vous voyez, je m'en souviens. Ça m'a marqué peut-être 25 ans après. Comme on a pas mal d'enseignants dans l'église et puis qu'on est proche de la rentrée, je vous raconte une petite histoire sur ce thème. C'est une histoire qui se situe aux États-Unis. Et un jour, il y a un directeur d'école qui convoque 3 professeurs de son établissement. Et voici ce qu'il leur annonce. Vous êtes les 3 meilleurs enseignants et on a décidé de vous confier les 90 élèves les plus intelligents de l'école afin d'analyser les résultats de votre travail avec eux. Pas mal comme mission. À la fin de l'année, ces élèves ont obtenu des notes environ 30% supérieures à la moyenne des autres classes. Et le directeur les a de nouveau convoqués et puis il leur a dit: je dois vous avouer la vérité, les 90 élèves que je vous avais confiés n'étaient pas plus intelligents que les autres. Nous les avions choisis tout à fait au hasard. Alors les 3 professeurs, évidemment, ont conclu que c'était dû à leur capacité incroyable d'enseignement. Et le directeur continue, je dois vous avouer encore un petit détail, vous n'êtes pas les meilleurs professeurs de l'école. Vos noms ont simplement été les premiers à être tirés du chapeau dans lequel j'avais mis les noms de tous les enseignants de l'école. Pourquoi donc les élèves choisis avaient-ils obtenu les meilleurs résultats? Parce qu'on les avait encouragés à croire qu'ils en étaient capables. Histoire véridique. Voilà le pouvoir de l'encouragement illustré. Dans la Bible, il y a un homme qui est surnommé fils d'encouragement. Est-ce que vous savez qui c'est? Barnabas. Barnabas, et j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de Barnabas. Barnabas, c'était un compagnon de Paul. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui. On ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie, mais on sait que c'était un homme qui encourageait les autres, et je pense qu'il peut nous laisser un bon exemple ce matin. On va prendre dans le livre des Actes, un petit passage, chapitre 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers lui. La nouvelle en parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul, ou Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aimerais juste un instant qu'on puisse s'arrêter sur le verset 24, qui nous donne trois caractéristiques de Barnabas. C'était un homme de bien, il était plein d'Esprit Saint et de foi. Et il me semble que ces trois caractéristiques sont essentielles de quelqu'un qui encourage. D'abord, un homme de bien. C'est dur de faire le bien. Être un homme de bien. Pour qu'on puisse être appelé homme de bien, je pense qu'il faut avoir fait vraiment beaucoup de bien autour de soi. Là, on est plutôt... ça dépend. Un homme de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui recherche à faire le bien, pas son propre intérêt, qui cherche à être bénédiction autour de lui, comme disait François. Quelqu'un qui n'encourage pas faussement ou avec des motivations douteuses. Vous savez, vous pouvez très bien encourager des gens en pensant qu'il y aura un retour sur investissement. Barnabas, c'est pas ce genre de personne. Barnabas avait montré combien il souhaite être une bénédiction autour de lui. Et on sait par exemple qu'il faisait partie de ces gens de l'église primitive qui avaient vendu tous leurs biens pour les mettre en commun au sein de la première église. Je ne sais pas vous si vous seriez prêt à faire ça, mais ça montre que c'était quelqu'un qui pratiquait le bien jusque dans ses biens matériels. La deuxième caractéristique, c'est que c'était quelqu'un plein d'Esprit Saint. Barnabas se laisse inspirer par Dieu et qui devait sans doute le conduire vers ceux qui avaient besoin d'encouragement. Parfois on a, en tout cas c'est mon cas, parfois on a besoin de discernement parce qu'on ne sait pas forcément ce que les gens vivent. Sauf si on est dans la confidence, et parfois les gens racontent pas ce qu'ils vivent, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont honte, parce que c'est trop lourd à porter, et on pense qu'on va gêner les autres à partager nos soucis. Et dans ce cas-là, je pense qu'on a besoin de discernement, parce que peut-être Dieu peut nous montrer telle ou telle personne, il faut aller l'encourager, et vous savez pas forcément dans quel domaine, mais vous allez vers elle et vous commencez à l'écouter. La troisième caractéristique, c'est que Barnabas était un homme de foi. Et on peut encourager quelqu'un sans penser même que sa situation peut changer. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous allez vers quelqu'un, vous l'encouragez, mais en fait, au fond de vous, vous savez très bien que ça va être compliqué. Et dans ce cas... quelle est la valeur de nos paroles? Est-ce que ce sont des paroles qui sonnent un peu creux, un encouragement qui sonne faux? Un peu comme un djembé qui a la peau mal tendue? Nos paroles n'ont pas tellement de valeur. Mais Barnabas, la Bible nous dit que c'était un homme de foi. Et je pense que le premier type de foi qu'il avait, c'était la foi en Dieu. Et la foi que Dieu peut changer les choses. Et si vous allez encourager quelqu'un en pensant que Dieu peut changer effectivement son cas, et peut-être il va se servir de vous pour l'aider à changer ce problème ou cette difficulté par laquelle votre frère ou votre sœur passe, ça va tout changer. De penser que Dieu peut changer les choses. Et ça demande une dose de foi à nous-mêmes, encourageurs. Et par ailleurs, c'est sans doute aussi quelqu'un, un homme, qui non seulement avait une pleine confiance en Dieu, mais qui provoquait sans doute chez les gens la confiance en eux-mêmes. Peut-être vous connaissez, ou peut-être vous êtes vous-même des gens de ce type-là. Ouais, mes collègues de travail, notamment un qui vient de partir à la retraite malheureusement, c'est quelqu'un qui était capable d'insuffler la confiance en nous-mêmes alors qu'on peut se sentir démuni face à une situation. Et on peut vous encourager. Et si vous ne croyez pas en vos capacités, vous allez rester au même endroit finalement. L'encouragement permet aussi de croire au meilleur de nous-mêmes. Alors ce n'est pas dire se voir plus beau que ce qu'on est, comme on dit dans le sport, mais s'appuyer sur les capacités que Dieu nous donne. Avoir une juste mesure et une connaissance de nos forces et de nos faiblesses. Et tout en sachant que nous sommes complètement dépendants de Dieu et que sans lui nous ne pouvons rien faire. Alors ces trois caractéristiques de l'encourageur, en tout cas, montrent que pour pratiquer ça au jour le jour, il faut se laisser modeler par Dieu. Et sans lui, on ne peut rien faire. Dans la vie, et ça sera un peu ma conclusion, dans la vie, par rapport à l'encouragement, je dirais qu'il y a quatre cas. On peut être encourageur, on peut être décourageur, on peut être encouragé ou on peut être découragé. On passe tous par toutes les phases, je pense, à un moment ou l'autre. Et quand on est face à des personnes découragées, et peut-être vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il y a quelque temps, j'ai parlé du découragement, de l'histoire d'Élie, et donc un peu toutes les phases par lesquelles on peut passer qui aboutissent au découragement. Quand on est face à des personnes découragées, notre responsabilité, elle est vraiment importante. Être des encourageurs et non des décourageurs. Important de discerner qui a besoin d'encouragement. Évidemment, c'est quelque chose qui peut nous coûter du temps, notamment du temps d'écoute. Qui est prêt à mettre du temps dans l'écoute des autres? Mais pour celui qui encourage, il y a aussi des bienfaits. Et concernant Barnabas, la parole nous dit une chose. Quand il est allé visiter les chrétiens d'Antioche, en les voyant, il y a une chose qui lui est arrivée, c'est qu'il était rempli de joie. Et la joie du Seigneur, on sait que c'est quoi? C'est notre force. Rempli de joie à la vue de ces gens qui suivaient Dieu. Et finalement, une des vertus de l'encouragement, c'est que lui-même a été encouragé de voir l'œuvre de Dieu qui progressait. Et ça lui procurait cette joie. Et c'est pour cette raison, et je trouve ça vraiment super, que quand on partage nos sujets de prière, que ce soit via le bulletin de prière ou via le groupe WhatsApp, qui est un peu moins actif que pendant le confinement, mais qui reste actif, c'est important de pouvoir aussi ensuite partager les réponses de Dieu à ces prières. Et on en a eu quelques-unes cette semaine de réponses, pour Thibaut par exemple, et c'est un motif d'encouragement et de joie pour beaucoup, je pense, dans cette communauté, de voir ce que Dieu fait dans des choses simples, dans des choses de la vie de tous les jours. Mais c'est aussi ça qui nous fait avancer. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps, c'était un court message ce matin. C'est encore les vacances, faut être un peu léger. Retenez juste une chose, soyez des encourageurs, suivons l'exemple de Barnabas, guidé par trois choses, la foi, le bien et l'Esprit Saint. Amen. Et j'aimerais prier pour vous et pour nous. Mais Seigneur, c'est pas toujours évident d'être quelqu'un qui encourage. On est aussi dans une culture où souvent on voit tout ce qui est négatif avant de voir ce qui est positif chez les gens. Aide-nous à surpasser ça, à surpasser cette culture nocive et à voir aussi quand un frère ou une sœur a besoin d'encouragement dans tel ou tel domaine, qu'on puisse être à l'écoute, qu'on puisse être sensible à ta voix aussi, au Saint-Esprit, qui peut nous parler et nous orienter vers l'une ou l'autre personne. Seigneur, j'aimerais encourager cette communauté dans sa marche avec Dieu, les uns et les autres. Je ne sais pas par quoi chacun passe, mais je sais que quand on marche à côté de toi, il y a toujours une seconde trace de pas. Et quand il n'y a pas de seconde trace de pas, c'est parce que tu es en train de nous porter dans tes bras. Merci parce que tu nous guides à travers ce chemin de la vie. Merci parce que tu es là, dans nos bons et dans nos mauvais jours. Merci parce que tu ne nous demandes pas de nier les circonstances compliquées, mais tu demandes de nous appuyer sur toi fermement. Aide-nous en tant que communauté aussi à être soudés, à être là les uns pour les autres, à être présents comme tu nous y appelles. Aide-nous à être un peu plus des Barnabas, à pouvoir encourager autour de nous, à être des lumières les uns pour les autres et être au service les uns des autres. Amen.